Bonjour pour vous, mes amis. Merci beaucoup pour être ici avec nous. Je suis Ruben Soto. Je suis votre instructeur gnostique ici chez vous, chez l'Institut culturel Quetzalcoatl. Merci à tous pour nous accompagner. D'accord. Nous avons quelques années ici à l'Institut culturel Quetzalcoatl, que nous délivrons un message de Noël, un message spécial. C'est un message qui est utile pour pour mieux connaître l'Agnos. Et cette année, nous allons vous libérer. Nous allons partager ce message de les temples bleus qui est en relation avec la méditation. Et très bien, allons-y. L'heure bleue, le temple bleu, c'est une connexion avec l'esprit, avec l'être, avec notre Dieu interne. C'est la raison d'être du temple bleu. Eh bien, comme introduction, nous disons maintenant que bien, la méditation est la recherche de la vérité dans les lieux les plus appropriés, mais les moins explorés. C'est l'intérieur de chacun de nous. La méditation est une intériorisation toujours progressive et de plus en plus profonde, essayant d'atteindre la tranquillité de l'esprit, d'acquérir, mes amis, la connaissance de soi et par conséquent d'atteindre la paix intérieure, le bonheur et la vraie liberté. La méditation est la recherche d'informations sur un défaut psychologique, par exemple, sur une plainte, sur un enseignement, mais sans l'intervention de l'esprit. Sans l'intervention de l'esprit, il s'agit d'accéder à des facultés supérieures à l'esprit, supérieures à la mentale, supérieures à l'intellect, et d'acquérir une connaissance de nature transcendantale qui peut nous conduire à une transformation vraiment radicale, totale. Une première étude de la technique de la méditation est le prélude à cette paix divine qui surpasse toute connaissance. La meilleure façon de penser est de ne pas penser. Lorsque l'immobilité et le silence de l'esprit sont atteints, le moi, avec toutes ses passions, désirs, peurs, affections, etc., est absent. Alors, ce n'est pas une discipline pour les personnes inconstantes, c'est la vérité. Ce n'est pas une discipline pour les personnes inconstantes ou qui veulent des résultats immédiats, rapides, faciles, sur les essences vraiment guerrières avec de grandes aspirations ou changements qui cherchent de toute la force de leur âme. La vérité est que cette science millénaire est dirigée. Dans ces anciens monastères où la méditation pendant de nombreuses heures par jour reste de sage, où on considère qu'après environ 30 ans de travail, 30 ans de travail, il n'y fait que commencer. Cela nous donne une idée de combien nous sommes superficiels aujourd'hui et que nous supposons que la méditation doit venir imaginaire de être avec des ailes, ressentir des choses drôles comme une chaleur circulaire à travers notre corps pour percevoir certaines vibrations. Rien de tout cela n'est de la méditation. La méditation authentique cherche, mes amis, la tranquillité de l'esprit, parce que Dieu cherche la vide pour le combler. Quand vous voyez les choses du jour ou du lendemain, la vérité est qu'elles ne sont que les produits de notre fantaisie, décollant de notre propre insécurité, des complexes d'infériorité, de vouloir se démarquer. Pour tout cela, il faut avoir l'immense courage d'abandonner ce que nous recherchons. C'est le silence, c'est l'immobilité, pas de fantaisie, pas de fantasmes, c'est-à-dire un obstacle à l'apprentissage de la méditation. Et toutes ces fantaisies sont une distraction seulement. La méditation est la recherche d'informations, mais indépendante de toute activité intellectuelle. Le but de la méditation est de se libérer de l'esprit, comme l'a montré le grand maître Jésus en entrant à Jérusalem le dimanche des Rameaux, monté sur un âne. Représentation vivante de l'esprit, cela indique, mes amis, que nous devons le dominer, le mental, l'intellect, non qu'il nous domine. La phrase écrite dans le temple de Delphes, non c'était ipsum. Est une petite phrase, mais avec un grand contenu. Il signifie, homme, connais-toi toi-même. C'est la clé suprême, mes amis, c'est la clé suprême. Les plus sages du passé avertissent que la vérité ne se trouve pas à l'extérieur. Nous la trouverons au plus profond de nous-mêmes. Par la méditation, nous obtenons ces pains supersubstantiels, cette sagesse d'un hôte. Nous pourrons trouver aussi la paix, la tranquillité tant attendue, comprendre nos défauts psychologiques et ainsi avoir la possibilité de les désintégrer. Bien qu'il semble que cela n'a rien à voir avec cela, mais nous pourrions parvenir au renforcement de notre organisme physique à travers la méditation, car nous recevons constamment différents types de sous-types d'énergie, et lorsque nous méditons, nous la transformons en une énergie supérieure, et cela arrive comme nos retours pour nos cellules. Nous pouvons obtenir une diminution notable du stress, car nous avons plus de capacités à faire face aux circonstances de la vie lorsque nous méditons, parce que nous agissons de manière plus sereine. La méditation a la capacité d'activer les chakras au centre magnétique pour développer les facultés latentes de l'être humain. La méditation dont nous avons besoin est la même que celle qui a été pratiquée avec tant de dévotion et de respect dans les mystérieux temple de l'ordre sacré du dragon jaune dans la Chine ancienne. La méditation dont nous avons besoin est celle que Bouddha a enseignée à ses disciples avec tant de tendresse et d'amour. Nous sommes éloignés de notre mère nature, nous vivons en disharmonie dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Il est à admirer, mes chers amis, que dans un passé lointain, dans les cultures du Mexique ancien, pré-Inca, égyptien, tibétain, chinois, etc., ils possédaient une science ancienne qui peut résoudre pleinement tous nos problèmes actuels. C'est un système d'auto-guérison qui peut nous aider à guérir physiquement, mentalement, émotionnellement, etc. Alors, que des progrès sont réalisés dans le domaine de la médecine et que la science moderne, il ne fait rien de moins que confirmer ce qui est si simple avant qu'il ne soit prêché dans les temples mystérieux. Nous parlons d'un système qui peut nous guérir, nous renforcer et nous aider, mais qu'il est à la porte des plus humbles, qu'il n'est pas nécessaire de les changer contre de l'argent, qu'il ne faut rien acheter. Un système à la porte des plus simples et des plus compliqués. Nous nous référons à une thérapie de repos au temple bleu. C'est la même chose d'apprendre à vraiment se reposer, de s'immerger dans le silence et la mobilité de l'esprit. Eh bien, nous nous sommes éloignés de notre mère nature. Nous vivons en disharmonie dans notre façon de penser, de ressentir et d'agir. Il est d'admirer que dans un passé lointain, dans les cultures de Mexique ancien, pré-Inca, égyptien, tibétain, chinois, etc., ils possédaient, je le répète, une science ancienne qui peut résoudre pleinement tous nos problèmes actuels. C'est un système de guérison. La pratique quotidienne de la méditation nous transforme radicalement. Les gens qui ne travaillent pas à l'anéantissement de soi vivent en palpitante et comme papillon d'école en école et ne trouvent pas leur centre de gravité permanente. Ils meurent sans succès, sans avoir réalisé la réalisation intime de l'être. Alors, tout cela nous parle de l'importance de la méditation et d'être constante avec volonté, de la volonté. Il aura toujours, des excuses pour ne pas méditer, mais pour les essences qui aspirent à la lumière, il n'y a aucun obstacle qui puisse les arrêter. Cependant, aussi longtemps que possible, nous pouvons créer des conditions favorables pour nous aider. Comme un endroit propre, de préférence si nous utilisons une chaise, que cela ne soit utilisé que pour la méditation. Que l'endroit soit ventilé, certaines images qui représentent des principes cosmiques universels nous aidera. Un temple grec, une pyramide maya, une pyramide égyptienne, ça nous aidera vraiment à entrer dans cet état spirituel pour la méditation. Avant d'entrer en méditation, nous les voyons généralement comme un symbole du Christ cosmique représenté par le Maître Jésus ou par une représentation de Krishna ou de Quetzalcoatl, Osiris aussi, etc. Un symbole de l'éternel divin féminin est également d'un grand aide. Il peut s'agir d'une statue ou d'une image d'Isis, de Tonantzin, Rhea, Sivel, Kundalini ou Marie, etc. Une représentation de la mère divine. De temps en temps, l'encens naturel nous aidera. De préférence, la résine, juste un peu brûlée dans un petit feu. La musique classique est un bon compagnon, et si nous utilisons des mouvements fluides, comme des adages, des mouvements fluides dans la musique classique, comme les adages, tant mieux. De préférence, nous suggérons Beethoven, car il active la musique de Beethoven, active les centres émotionnels supérieurs, aussi de la musique du maître Mozart et Wagner, car en plus d'être musiciens, ils ont été aussi des initiés. Les roches sont toujours un réconfort pour les pratiquants. Donc, à chaque occasion, mes chers amis, que nous en avons l'opportunité d'aller à les champs, nous pouvons aller sur le terrain pour les trouver en roche grande et les méditer sur elle. Si nous sommes couchés, la tête peut aller au nord, et ainsi nous profiterons des courants magnétiques qui circulent du sud au nord de la Terre. Il peut aussi être avec la tête à l'est, en raison de sa symbolique, puisque le soleil y est né, symbole de la vérité et de la sagesse. Si nous sommes assis, cela pourrait être le visage tourné vers le soleil. Ce ne sont que des suggestions, d'accord? Il n'est pas décisif pour une bonne méditation, pour avoir une bonne méditation. En tout cas, ce qui importe, c'est l'attitude interne au moment de faire notre pratique de méditation. Il est très important, mes amis, que nous fermions les yeux pour méditer, car les perceptions sensorielles externes viennent à l'esprit et nous y réagissons. Et nous l'évitons simplement en fermant les yeux. Il faut oublier le temps pendant la méditation. Si l'on est conscient du temps, mon Dieu, quel aurait-il, etc. Et c'est comme vouloir déplacer en voiture en appuyant sur les freins et sur l'accélérateur. Et même temps, il n'y a pas de raison là-bas. Eh bien, voyons la posture pour la méditation. La première chose à faire est de se placer dans une posture appropriée pour méditer. Cela s'appelle asana. Dans les langues de l'Inde, c'est le sanskrit. Les milieux artificiels psychologiques que nous avons n'aiment pas l'idée que nous méditons. C'est quelque chose qui est en contre de leur propre vie, de la vie de nos défauts psychologiques, les défauts que nous avons à l'intérieur de nous-mêmes. Alors, c'est quelque chose qui est en contre de leur propre vie. Il n'est donc guère normal que, sous aucun prétexte, ils nous mettent beaucoup d'obstacles à méditer. Une des choses qu'ils utilisent le plus quand on débute avec cette discipline est qu'on sent qu'on manque la circulation dans nos jambes. On ressent des mangeaisons, des choses drôles, qu'un pied s'est déjà dormi, que notre dos est fatigué, etc. Ce sont des choses que nous pouvons facilement surmonter avec une posture appropriée pour la méditation. C'est l'importance de prendre une bonne posture. Au début, on ne suggère pas grand-chose, car il est très probable que nous nous endormions si nous n'avons pas l'habitude de méditer. Une fois que nous maîtrisons les rêves, pendant la méditation, c'est l'une des postures les plus recommandées de nous coucher sur notre dos. Cette posture, la posture d'un mort, nous nous couchons sur notre dos, les bras unis à notre corps, les jambes ensemble aussi. C'est une posture très symbolique puisque c'est ainsi qu'il nous enterre quand on meurt. Cela nous dit que quelque chose doit mourir en nous. Et ce sont nos défauts psychologiques. Si nous plaçons notre tête vers le nord, nous pouvons profiter des courants magnétiques qui circulent du sud vers le nord. Si c'est sous couchère, nous nous reposons mieux. Si c'est pour méditer, il y a une plus grande concentration avec ces positions de l'homme mort. Eh bien, en deuxième position, c'est l'étoile à 5 branches, à 5 points. Couché, et je le répète, ça peut aussi être la tête du nord, les bras écartés et les jambes écartées, comme les dessins de Leonardo da Vinci, la figure de l'homme. C'est l'étoile à 5 branches, avec notre corps comme position pour méditer. Former une étoile à 5 branches avec les corps, comme le dessin, je le répète, de Leonardo da Vinci. L'étoile flamboyante que nous formons avec les corps est la même pentagramme ésotérique. Ésotérique est positif. Devant ces symboles, les ténébreux fuient. Cette posture est en elle-même nous protège donc de toute force négative. Eh bien, nous pouvons aussi prendre la position assise. Beaucoup d'entre nous ne sommes pas habitués à faire de l'exercice ou yoga, etc., car il nous suffira de nous asseoir. Alors, dans un fauteuil confortable, eh bien, la position de tailleur. Lorsque nous marchons dans les champs ou dans un endroit où nous ne pouvons ni nous asseoir ni nous allonger, nous avons la posture orientale en tailleur, comme les Bouddhas, comme un tailleur au travail, comme on nous le dit à la maternelle. Taureau assis, fait son allusion aux Indiens Apache de la Nord-Amérique. C'est très simple, c'est avec les jambes croisées. Si nous faisons cette posture, de préférence, nous devons veiller à ce que la jambe droite soit devant la jambe gauche, car de cette manière, nous absorbons les énergies positives de la Terre, d'accord? Eh bien, nous avons aussi la fleur de lotus. Cette posture est appelée dans le monde oriental comme Padmasana. Padmasana, et je le répète, asana, est un mot pour dire une posture. Et Padma est un lotus. Padmasana, position de lotus. Ces postures ne sont proposées qu'aux personnes habituées. La posée de tailleur et la fleur de lotus. Et personnes habituées à ce type d'exercice. Si nous n'avons pas cette discipline, elles ne sont pas très utiles. Nous devons prendre, si nous commençons, une posture très simple. Et que faisons-nous avec nos mains? Nous pouvons, si nous le voulons, placer nos mains de la manière suivante. Les dos de la main droite sur la paume de la main gauche. Les dos de la main droite sur la paume de la main ici. Gauche. Main droite et main gauche. Comme il était ainsi, il était le dosage dans l'ordre sacré du dragon jaune, ou comme il est possible de voir de nombreuses images du Bouddha. Eh bien, le système pour détendre le corps, Pojon. La relaxation physique. La relaxation du corps physique est essentielle pour atteindre la intériorisation et rechercher l'ordre de la méditation. Cela nous aide à nous concentrer et à attirer les sommeils indispensables pour la méditation. Pour détendre le corps, nous pouvons utiliser plusieurs systèmes. Cela dépendra de chacun d'eux, avec lesquels nous nous relaxons mieux. C'est différent dans chacun d'eux. Vous devez donc tous les faire et voir avec lesquels ou lesquels nous sont les plus utiles. Eh bien, imagination et volonté. Il y a deux précieuses facultés qui correspondent à chacun 1 et 2 de la Kabbalah. Nous nous référons à la volonté caractéristique de la Kan-An, qui est les magiciens à la Kabbalah, et à l'imagination caractéristique de la Kan-2, qui est la prêtresse. Eh bien, quand ils se réunissent dans une harmonie vibrante, nous pouvons réussir dans nombre de nos pratiques gnostiques, telles que les départs astraux, conscientes et aussi dans la relaxation du corps physique. Nous mettons alors tous nos efforts et imaginons que notre corps est rempli de naines qui quittent progressivement le corps. En partant, le corps se détend. Nous pouvons partir de la plante des pieds, remonter chaque partie du corps jusqu'à atteindre la couronne, la partie la plus haute de notre tête. La respiration des enfants, c'est une autre technique. On voit leur attitude quand ils dorment, les enfants, les bébés, ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils vont manger, ni de ce qu'ils ont fait dans la journée, ni de ce qui va passer demain. Ils font confiance à leurs parents qui leur donnent ce dont ils ont besoin. Nous devons adopter une attitude similaire pendant la méditation, lors de la relaxation du corps physique. Il est important de vivre, mes chers amis, ici et maintenant. Si en ce moment nous allons méditer, nous devons faire précisément cela, méditer. Pas être dans les passés ou les futurs. Faire confiance à nos parents spirituels. Nous imitons la respiration d'un bébé avec calme et confiance. Nos bras et nos jambes, comme des enfants, ressemblent à de la soie. Alors, nous sentons les nôtres de ces façons, de ces manières. Comme un bébé, nous l'imitons pour réussir la relaxation de notre corps physique. C'est une autre technique. Les battements du cœur ou les pulsations. Il existe une pratique gnostique qui, dans le développement, nous ne permet de contrôler notre rythme cardiaque, ce qui ne permet pas à la loi d'utiliser pour retenir le corps. On est concentré sur le cœur, sur les battements. Nous nous concentrons à notre cœur, alors nous le sentons sur la pointe de notre nez, alors nous sentons les pulsations, les battements de notre cœur dans l'oreille droite, après sur la main droite, après sur le pied droit, alors les pieds gauches quelques minutes, après la main gauche, après l'oreille gauche, après cela, les points de la nez, et après, et finalement, la poitrine, le cœur. C'est une autre technique pour relaxer notre corps physique, les battements du cœur ou la pulsation, la concentration sur toutes les parties de notre corps. Eh bien, assis confortablement, détendez complètement votre corps physique, de la plante des pieds au sommet de la tête. Essayez de voir, un par un, avec les yeux de l'imagination, les os, les muscles, les nerfs, les artères, les cellules, les atomes, etc. Nous nous concentrons sur chaque partie de notre corps et nous la relaxons. C'est une autre technique. Eh bien, nous voyons maintenant la partie de la rétrospection sur la méditation. Il y a un exercice formidable qui est utile pour beaucoup de choses. Il est très important que l'étudiant gnostique apprenne à le faire, car ces bienfaits sont excellentes pour beaucoup de choses que l'on recherche dans la gnose. Nous nous référons, mes amis, à l'exercice de rétrospection, qui consiste à voir les événements que nous vivons à partir du moment où nous faisons l'exercice à l'inverse. Il a la capacité de régénérer le cerveau. De nombreuses sondes ne fonctionnent généralement pas maintenant, en raison d'abus sexuels et de l'abus mental ou intellectuel. Avec cet exercice, il est possible de les mettre en activité progressivement, avec beaucoup de discipline. L'idée de les faire en méditation, de faire la rétrospection de méditation, est de prendre conscience de chaque fait de la vie quotidienne, puisque nous vivons généralement avec notre conscience endormie, et avec cet exercice, il est possible de prendre conscience de ces faits. Le thème central est d'identifier, pendant la rétrospection de notre propre vie, les défauts psychologiques. On pense être presque un ange, parfait, bon père, bon fils, bon frère, ou soir. Mais alors, en réalité, on a des milliards de défauts psychologiques. Il est important de se rendre compte de ce que l'on est, mais vraiment. Il est également utile pour la mémoire des existences passées, la rétrospection, parce que nous activons, encore une fois, certaines parties de notre cerveau. Si l'on fait cet exercice avant de s'endormir, et que le lendemain continue là où il s'est arrêté, cela demande beaucoup de patience. Alors, nous pouvons faire l'exercice et peut-être nous pouvons nous souvenir d'une semaine, cette nuit, avant de nous endormir. Mais demain, nous continuons l'exercice de rétrospection dans la semaine dernière, une semaine ou deux semaines. Et ainsi, nous continuons jusqu'à le moment où nous sommes nés dans cette vie. Et nous les recommandons de faire cet exercice avant de nous endormir, parce que nous avons la possibilité de continuer, mais dans le monde astral. Et dans cette manière, nous pouvons nous souvenir de nos vies passées. Eh bien, cela, cet exercice nous aide également à éveiller la conscience dans le monde du rêve ou astral, puisque nous répétons généralement les mêmes choses que nous faisons dans notre vie quotidienne. Cela est dû à la nature mécanique dans laquelle nous vivons et aussi parce que notre être réel veut que nous puissions percevoir la triple portée de chaque moment de la vie et comme nous vivons de manière inconsciente, et les rêves répètent les activités de la journée, généralement, pour que nous finissions notre apprentissage. Donc, si nous faisons un exercice rétrospectif avant de nous endormir, nous serons en vacances ou livrés pendant les heures dans lesquelles nous sommes hors de notre corps physique, pendant que nous sommes en corps astral. Et c'est une autre chose de bienfait de la rétrospection. Elle nous aide à devenir conscience dans notre corps astral. Eh bien, la relaxation mentale. Voyons la relaxation mentale et son importance pendant la méditation. Nous voyons trois points, la réflexion sereine, la psychoanalyse et la mentralisation ou koan, pour atteindre la relaxation mentale. La réflexion sereine. Premièrement, nous devons nous rendre pleinement conscients de l'état de nos émotions dans lesquelles nous trouvons avant que des pensées ne surgissent. La psychoanalyse, c'est pour enquêter, rechercher la racine et l'origine de chaque pensée, mémoire, affect, émotion, sentiment, ressentiment, etc., lorsqu'ils surgissent dans l'écran de notre intellect. La mentralisation ou koan, l'objectif ici est de cette étape, c'est de mélanger dans notre univers intérieur les forces magnifiques des mantras ou koan, mais aussi éveiller la conscience et aussi accumuler intimement des atomes christiques de très haute tension qui nous aide dans notre chemin spirituel. Eh bien, voyons chacun d'entre eux. La réflexion sereine. Tout d'abord, nous devons découvrir l'état émotionnel dans lequel nous nous trouvons et en prendre conscience À défaut de faire cette étape, les émotions produisent un pouce intellectuel, luttant contre les antithèses, rendant la méditation impossible. En prenant conscience des émotions que nous avons au moment de la méditation, nous pouvons facilement conjurer ces problèmes. Si quelqu'un, par exemple, a reçu de l'argent, il sera très heureux, n'est-ce pas? Nous serons très heureux. Mais si nous méditons sur cet état émotionnel sans le comprendre, la chose la plus probable est que nous passons tout notre temps à réfléchir à tout ce que nous pouvons faire avec cet argent. Alors, nous ne méditons pas. C'est pourquoi il est important, c'est la raison par laquelle il est important de devenir conscient de nos émotions avant de commencer la méditation. Si quelqu'un nous a insulté, nous serons très probablement en colère. Si nous ne prenons pas conscience de cet état émotionnel pendant le temps que nous sommes censés consacrer à la méditation, nous serons dans un dialogue interne. Ce que nous leur avons dit, ce qu'ils nous ont dit, ce que nous leur aurions dit, etc. Pendant tout le temps de la méditation. Voyez-vous l'importance de devenir conscient de l'état émotionnel? Alors, quand la rétrospection est terminée, on plonge comme des plongeurs, mais en soi-même, afin de découvrir nos émotions et d'en prendre conscience, il est essentiel de ne pas combattre les pensées, de ne pas les rejeter, de ne pas les fuir. Au lieu de combattre l'esprit ou l'intellect, nous devons prêter attention à tout ce qui en découle. Nous devons activer la conscience, mes amis, l'esprit et la personnalité pour devenir de plus en plus passifs. Je le répète, nous devons activer la conscience pour qu'elle réfléchisse, elle étude, comprendre les défauts ou ce qui est l'objectif de la méditation. Mais l'intellect et la personnalité, où est toute notre vie, toutes les choses de le monde extérieur, doit venir de plus en plus passif. Pour méditer, nous n'avons pas besoin de l'intellect ou de la personnalité. La personnalité est tout ce qui est extérieur de nous. Le travail, les études, la nourriture, à ce moment-là, ils ne sont pas nécessaires. Alors, nous devons mettre la conscience active, mais quant à la personnalité, à l'intellect, à l'état passif. Pour que cette phase se déroule avec les plus grands succès, nous pouvons, dans les courses ordinaires de la vie quotidienne, garder un œil sur notre intellect dans chaque activité trépidante qu'il a. Arrêtez-vous, même un instant, pour observer le mental. Si nous y parvenons, ce sera beaucoup plus facile. En matière de méditation, eh bien, les psychanalystes. Voyons. Nous devons nous explorer pour nous connaître. Nous devons chercher à comprendre chaque émotion, chaque sentiment, souvenir, etc. qui apparaît sur l'écran de l'élémental pendant la méditation. Lorsqu'une pensée est comprise, elle cesse de nous déranger. Ce n'est pas de traiter les pensées qui surgissent comme des entités démoniaques que nous détendrons, l'esprit. Il s'agit de prêter attention à la partie inattentive de notre mental pour qu'il devienne attentif, en conscience. Et avec la conscience, étudier tout ce qui provient du subconscient. Quand on prête attention à ce qui nous rend inattentif et l'étudier en essayant de les comprendre, alors cela transforme la partie inattentive en attentif, atteignant ainsi le succès dans la méditation. Eh bien, voyons, les pensées à un abîme. Nous pouvons utiliser l'imagination créatrice pour détendre l'esprit. L'imagination consciente est une faculté des plus précieuses qu'il ne faut pas confondre avec la fantaisie. D'accord? Ce sont deux choses très très différentes. Une chose c'est l'imagination consciente et une autre chose c'est la fantaisie. L'imagination elle est traduite de l'âme. Imaginaire c'est voir pour l'étudiant mystique. Nous mettrons une attention pleine, naturelle et spontanée de toutes les manières qui sont une apparition sur l'écran de notre esprit, qui font une apparition. Chaque pensée ou sentiment, nous essayerons de les comprendre, puis, après les comprendre, en imaginant un abîme, nous lancerons cette pensée et nous pouvons donc partir en laissant l'esprit ou l'intellect en silence. C'est la technique de les pensées et les mettre dans un abîme. Après la compréhension de chacun d'entre eux. Pratyahara. Il existe une merveilleuse technique pour laisser l'esprit en silence. Il s'agit de comprendre chaque forme mentale qui apparaît, d'étudier également son entité. L'objectif, mes chers amis, c'est d'atteindre la sainteté. Lorsque nous y parvenons, la pensée cesse de nous déranger. Alors, supposons qu'une image morbide arrive, ce sera sans aucun doute un oiseau de mauvais augure dans notre esprit, comme un oiseau noir, qui nous conduira à une véritable tempête de pensée, une véritable tempête psychologique. Mais ce n'est pas en étant agressif avec une telle pensée que nous pouvons nous laisser tranquilles. Il s'agit de méditer sur ce qui est pour nous une image lubrique et ce qui en sera l'entité. À quel point la force sexuelle est vraiment sacrée. Alors, on arrive à une synthèse et on comprendra que cette pensée morbide n'a qu'une raison d'être. C'est une illusion, c'est une fantaisie de l'élémental de l'intellect et alors ces pensées disparaissent. Nous ne disons pas que nous devons penser ou raisonner ou intellectualiser ce qui nous vient à l'élémental. Ce dont nous avons besoin, c'est de méditer, de comprendre, en prenant en activité notre conscience, d'utiliser la conscience pour arriver à la synthèse de chaque pensée, et ainsi, ces pensées disparaître. Eh bien, voyons aussi ce qui est le koan, mantralisation du koan. L'idée des phrases énigmatiques ou koan et des sons sacrés nous aide à laisser le mental tranquille. De plus, avec eux, nous pouvons attirer les forces spirituelles divines dans notre méditation. On pourrait dire qu'un canal de plus haut est ouvert et que les atomes sont attirés, pour ainsi dire, de très hautes tensions, mais de nature spirituelle et divine vers notre pratique avec les koans et avec la mantralisation. Le mot koan fait référence à une phrase énigmatique que l'esprit ne peut pas résoudre. Le mental, l'intellect, ne peut pas résoudre cette phrase énigmatique. Ils sont fabriqués par des maîtres de méditation qui n'ont pas de solution intellectuelle. Alors le mental, l'intellect, en tant que matière raréfiée, se fatigue également. Et si nous nous concentrons sur une phrase énigmatique ou koan, dans le but sain de rendre l'esprit ou le mental faible, c'est possible de réaliser. Un koan est aussi un dialogue mystique entre un maître et son disciple. Il était fréquemment utilisé pour tester l'avancement du disciple. En fonction de l'avancement spirituel du disciple, il réagirait ou non à la phrase énigmatique du maître. Au cours des siècles, des phrases énigmatiques, ou koan, ont été utilisées par de très nombreux étudiants et grâce à la discipline, ils ont réussi à faire taire le mental, finalement. C'est le but, mes amis. Nous ne cherchons pas des choses drôles dans notre corps, dans nos mains ou à nos pieds. Vraiment pas. Nous cherchons un moment de tranquillité du mental. Parce que Dieu cherche les vider pour les combler. Ce que nous devons faire, alors, c'est de nous concentrer sur la phrase et essayer, pas avec l'intellect, de capturer sa signification. qui est au-delà des concepts, au-delà de la bataille des antithèses intellectuelles, et qu'il n'y aura jamais d'explication intellectuelle. Alors, vous pouvez voir ici, sur l'écran, quelques exemples de Koan. Par exemple, ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas le Bouddha, ce n'est rien. Et nous nous concentrons sur cette phrase et nous la répétons pendant quelques temps, quelques minutes, pour rendre le mental en silence. Un autre Koan. Si tu donnes les os à ton père et de la viande à ta mère, notre propre viande et notre corps à ta mère, alors, où étais-tu? Si tout est réduit à l'unité, à quoi se réduit l'unité? Quel est votre visage d'origine? Ce sont des koans, mes chers amis, et que nous expliquons, et nous vous donnons un petit guide, parce qu'ils n'ont pas d'explication intellectuelle, absolument pas. Si quelqu'un vient vous dire qu'il a trouvé l'explication, ne prêtez pas attention. Ce n'est pas qu'une explication intellectuelle, ce n'est pas utile. Ce n'est pas utile. Nous vous donnons un petit guide sur les messages de Noël de cette année de l'Institut culturel Quetzalcoatl. Et cette conférence est comme une introduction à cette libre gratuite que nous aurons dans quelques semaines. Nous les délivrons aujourd'hui, 24 décembre, comme un cadeau de Noël pour toute l'humanité. Mais aujourd'hui, c'est en espagnol. Et nous l'aurons en français dans quelques semaines plus tard. Mais nous partageons avec vous en synthèse de ce livre très intéressant qui, cette année, nous parle sur la méditation et l'importance de la même. La méditation est une science complète. Et ce n'est pas une exagération. C'est vraiment une science complète. Et nous devrons apprendre à méditer de manière responsable et sérieuse et avec la discipline. Eh bien, il y a des mantras, mes chers amis, pour beaucoup de choses. Il y a des mantras pour développer une faculté. Il y a des mantras pour le voyage astral conscient. Il y a des mantras pour beaucoup de choses. Et également, il y a des mantras pour la méditation. Un mantra est un son sacré. Il ne devait pas être alors surprenant qu'il existait aussi des mantras pour nous aider à atteindre le silence de notre mental, de notre intellect. Nous pouvons utiliser un son sacré. Par exemple, le mantra Om Mani Padme Jom qui se prononce Om Masi Padme Jom. D'accord? Ce son sacré développe les centres magnétiques du corps, les chakras du corps, et nous met en contact avec l'être intérieur profond. En même temps, cela détend notre esprit. Nous devrons les vocaliser avec beaucoup d'émotions positives pour qu'ils aient l'effet désiré. Les anciennes traditions disent prononcer les mantras secrets avec une émotion positive et le maître viendra. Il est écrit Om Mani Padme Jum, mais il se prononce Om Masi Padme Jom. Cela se traduit de diverses manières, mais tu nous rapproches du Père qui est en secret. L'un de eux est. Vous êtes en moi? Je suis un peu. Pratiquement, ce que les Mayas ont laissé avec le Inlak Esh Alak En, qui signifie pour les Mayas tu es moi et je suis toi. Nous le trouvons également par Ô mon Père et moi. Om Masi Padme Jom, Ô mon Père et moi. Eh bien, le mantra Aum, et la chose intéressante à propos de ces sons ou mantras sacrés, est-ce qu'il attire les trois forces primaires de la nature et du cosmos? Contenus ou connus sous le nom de Père, le Fils et le Saint-Esprit. La mission que nous avons ici dans le monde est d'incarner ces forces qui ont leurs attributs. Le Père est la vérité, le Fils est l'amour et le Saint-Esprit est la puissance. Quand on ment, on se sépare du Père. Quand on déteste, on se sépare du Fils. Et quand on abuse des fornicatrices, nous nous éloignons du Saint-Esprit. C'est un mantra puissant qui nous met en contact avec l'être réel, intérieur profond. C'est une invocation à l'ancien venu des jours. C'est l'être de notre être. Eh bien, le mantra Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhisattva. Ce mantra a été un cadeau à un disciple de Bouddha qui il ne peut pas arrêter ses objections de son mental, ses vagues intellectuelles. Et il demande Bouddha pour l'aider et le Bouddha apparaît à ses disciples et lui donne ce mantra comme un cadeau aussi. Gate, gate, paragate, parasamgate, bodhisattva. Ce mantra est prononcé doucement, profondément et dans le cœur. Il peut également être utilisé comme un verbe silencieux, car il existe deux types de verbes. Les verbes articulés, quand nous parlons, et les verbes silencieux, c'est-à-dire en répétant ces mantras, mais à notre mental. Et le mantra Wu. Ce mystérieux mantra est vocalisé comme le bruit du vent traversant les montagnes, ou comme les vagues de la mer frappant les roches d'une plage. Mais ce ne se fait pas verbalement. Dans ce cas, c'est dans un verbe silencieux. Eh bien, il y a d'autres clés pour réussir à le mental silencieux. C'est par exemple la musique classique. Nous avons, mes chers amis, sept centres, selon la loi du sept, qui organise et qui perfectionne tout. De ces sept centres, nous utilisons seulement cinq centres. Cinq centres appartiennent à la soi-disant machine humaine. C'est le centre intellectuel, l'émotionnel, les moteurs, les centres instinctifs et les sexuels. Et deux centres sont d'un caractère supérieur que nous avons pratiquement complètement oublié. Le supérieur, le mental supérieur et l'émotionnel supérieur. Ces deux centres, nous ne les utilisons pas, mais lorsque nous sommes vraiment conscients. Eh bien, si nous écoutons de la musique classique, en particulière celle de Beethoven, nous pouvons activer les centres émotionnels supérieurs avec une dévotion infinie. Eh bien, le pranayama, c'est bien l'énergie qui nous a amenés sur la vie est très forte, en fait, c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. Il suffit de réfléchir qu'elle a le pouvoir de créer la vie même. Si nous apprenons à la canaliser, cela peut nous aider dans de nombreuses choses. Non seulement dans notre travail pour gagner notre pain quotidien, mais aussi dans la méditation. Le pranayama consiste à respirer le prana, c'est-à-dire le souffle de vie, qui existe dans l'air pour qu'un changement se produise, une transformation. Et cette énergie, convertie en quelque chose de supérieur, puisse dérailler les voiles de l'inertie et nous aider à atteindre le silence dans l'esprit. Alors, la pratique de pranayama et de ramsar sont deux pratiques qui nous aident à utiliser nos énergies créatrices. Eh bien, sur les ramsar, dans la grande culture chinoise, les phénomènes consistant à canaliser sagement les énergies créatrices et à combiner les résultats de la dite alchimie dans la méditation, avec la méditation. Dans une école sacrée appelée l'ordre du dragon jaune, c'est un ordre de l'ancienne Chine. Ils se réunirent en cercle, assis à l'est, les jambes croisées, les dos de la main droite sur la paume de la main gauche. Ils ont pratiqué diverses techniques de domination de l'esprit ou de l'élémental, parmi lesquelles le mantra Ham-Sah, je le répète, Ham-Sah, avec lequel il est possible de transmuter l'énergie sexuelle et d'éteindre le silence du mental. Et voici, ces techniques. Inspirez profondément, lentement, en imaginant l'énergie sexuelle transmutée, remontante de nos organes sexuels par la colonne vertébrale jusqu'au cerveau. Et nous chantons mentalement les sons sacrés au mantra Ham. Alors, une inhalation profonde en imaginant comment la fosse crâtrice surmonte par notre colonne vertébrale jusqu'à la tête, jusqu'à le cerveau. Et nous prononçons Ham dans notre mental, bien sûr, pendant que nous inspirons. L'air est retenu, transportant l'énergie du cerveau vers le cœur. Expirez l'air rapidement en prononçant le mantra Sah. Alors, nous inspirons profondément pendant que nous répétons le mantra Ham à notre mental. Nous faisons une petite pause pour imaginer aussi cette énergie du cerveau au cœur et nous expirons l'air, mais de manière rapide et bref. Sah. Ham pendant l'inspiration. Petite pause pour imaginer l'énergie de cerveau à notre corps et après le mantra Sah. Eh bien, cela nous aide à porter cette énergie transmutée du cœur à la conscience. L'expiration, je la répète, l'expiration est courte et rapide. Ainsi, les sages chinois ont atteint la vacuité de l'esprit ou du mental et nous pouvons imiter leur exemple à travers cet exercice. Eh bien, pendant la méditation, il y a aussi une partie sur laquelle nous devons, si c'est le bout de la même, nous devons comprendre et juger, après la compréhension, les défauts psychologiques. Voyons, la compréhension est essentielle lorsque l'on veut vraiment désintégrer un défaut psychologique. Comprendre, c'est connaître quelque chose partout, au-dessous, en bas, à l'extérieur, à l'intérieur, dans tous les aspects. Être physique, mental, émotionnel, etc. Dans un défaut, c'est connaître de lui absolument tout, à tous les niveaux de l'esprit. Parce que notre mental, notre intellect a 49 niveaux. Et nous devons comprendre ces mêmes défauts dans chaque niveau du mental. Les 49 niveaux du mental. D'où cette attitude négative que nous avons profondément enracinée et nous empêche la compréhension des défauts. L'on est le pilote qui justifie tout, car tant qu'on excuse les défauts, il sera impossible de les comprendre. Tant qu'il se lave les mains avant tout ce que nous faisons, nous continuerons à la même manière. L'autre attitude et d'être les pharisiens dans la parabole de l'enseignant de le maître Jésus. C'est-à-dire de se sentir nous-mêmes justes et bons, une bonne personne, de considérer, mes chers amis, que nous faisons très bien nos devoirs, que au moins nous ne sommes pas comme tel ou tel. Quand on se croit bon, il devient impossible de changer. Impossible, parce que pourquoi on veut changer si on va déjà bien? C'est l'attitude des pharisiens. Il faut être très sincère, très humble et reconnaître de façon réelle, grossière, ce que l'on est véritablement. Eh bien, l'analyse superlative. Elle consiste en une connaissance introspective de nous-mêmes. Nous introvertir est essentiel pendant la méditation de fond. Dans cette étape, nous travaillons sur les processus de compréhension de soi-même, de nous-mêmes, ou du défaut que nous souhaitons désintégrer. L'étudiant gnostique se concentrera sur l'agrégat psychologique et le gardera sur l'écran de l'esprit, l'écran du mental. Surtout, il est essentiel d'être honnête avec soi-même. L'analyse superlative comprendrait deux phases qui sont l'auto-exploration, pour enquêter sur les profondeurs de la conscience et dans les 49 niveaux du subconscient à quand remonte la première phase dans la vie que le défaut s'est manifesté. À quand remonte la dernière fois et à quel moment il a plus de force pour se manifester. Ces moments dans notre vie, quand a été la première fois que nous voyons un défaut, qu'un défaut s'est manifesté en nous, peut-être à 5 ans, 6 ans, peut-être les mois derniers, les mois passés. Quand a été la dernière fois que le défaut s'est manifesté et dans quel moment de notre vie le défaut a la plus force pour se manifester de la manière la plus forte. Eh bien, découverte de soi-même. Examiner quels sont les aliments, la nourriture de l'émoi. Diviser les défauts en plusieurs parties et étudier chacun d'elles afin de savoir de quel genre de moi il vient et quel genre de moi en dérive. C'est l'association des défauts. Défauts psychologiques, de nos propres défauts psychologiques. Eh bien, les étapes de la compréhension. Concentration sur les défauts. Nous choisissons un défaut à étudier, un seul de préférence, le plus fort qui se soit manifesté dans la journée. La vie nous offre la didactique au travail, et le soi ou le moi qui nous a le plus blessé est toujours le meilleur à étudier. Nous pouvons également continuer avec celui que nous avons étudié ces derniers jours. Et c'est important de prendre les défauts les plus forts parce que ils affectent notre vie de manière la plus importante. Et au même temps, étant donné qu'il est le défaut le plus fort, il sera plus facile de l'étudier et de le découvrir véritablement. Eh bien, nous devons porter une attention pleine et naturelle aux défauts psychologiques que nous voulons étudier. Nous concentrer profondément en dessous et en essayant de les connaître profondément, d'accord? Toutes ces structures, toutes ces parties, ces relations, ces racines, etc. La reconstruction d'une scène. Nous continuerons à reconstruire une scène où les défauts se manifestent, quoi qu'il en soit. La première dont nous nous souvenons sera bien. Il s'agit de voir comme un film, mais sans s'identifier aux scènes. Conscience attentive dans la sérénité de la non-pensée, tout au long du processus de compréhension. Nous continuons sans éluder, les condamner ou les justifier. Le maître Samael nous parle de la réalisation d'une confrontation logique. C'est ce que nous faisons spécifiquement dans cette étape, bien que cela soit produit tout au long de la compréhension. Il s'agit de la conscience absorbante, la connaissance du mécanisme de l'ego psychologique. La logique est l'art de penser correctement et la meilleure façon de penser est de ne pas penser. Donc, ce processus est dans le silence mental. La confrontation entre la conscience, qui est tout, quelque chose, que c'est l'ego, et l'ego, qui est les choses que nous allons étudier. Eh bien, première et dernière fois, que le moi s'est manifesté et le moment où il a plus de force, c'est la auto-exploration. Avec la même attitude de traque mystique dans un état contemplatif, C'est un raisonnement d'aucune sorte. Maintenant, nous explorons dans le subconscient la première fois que le moi s'est manifesté dans la vie, ou la plus ancienne dont on puisse se souvenir. Après avoir étudié la première manifestation, nous passons maintenant à la dernière manifestation. Il y a peut-être quelques instants, la vieille, etc. Il est très important de découvrir et de comprendre les moments de la journée que vous avez le plus de pouvoir à manifester. Eh bien, il y aura des conditions, des lieux, des personnes, des horaires favorables, etc. Si nous les étudions, ces manifestations de l'ego, nous aurons plus de connaissances sur cet ego. La façon dont il se manifeste à travers les cinq centres. Les soi-disant machines humaines ont cinq centres pour son fonctionnement. Malheureusement, ceux-ci sont contrôlés par les moi-même, l'ego, c'est-à-dire les centres intellectuels, émotionnels, moteurs, les instincts, instinctifs et les centres sexuels sont contrôlés par l'ego. Dans son expression, l'ego aime nous tromper, car moins on en sait, plus il vibre ou dépend de nos valeurs vitales. Je le répète. L'ego aime nous tromper, car moins on en sait, plus il peut vibrer. Ainsi, cela peut être exprimé dans un centre de manière l'ego. Il peut sembler innocent, noble et juste. Mais en étudiant sa manifestation, dans tous les centres de la machine humaine, nous découvrons des choses insoupçonnées. Une amitié avec une personne du sexe opposé, au travail, à l'école, au gymnase, par exemple. Si nous voyons cette amitié dans les centres intellectuels, nous pourrions la comprendre, la voir comme un idéal, comme une fraternité. En l'étudiant dans les centres émotionnels, sa manifestation dans les centres émotionnels, nous pouvons découvrir l'affection, l'amour, l'amitié. Mais étonnamment, en l'étudiant dans les centres sexuels, on pouvait ressentir de la morbidité, de la passion animale. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est la manifestation d'un mois de la luxure. Eh bien, voyons la nourriture de l'ego, l'auto-exploration. Si vous voulez désintégrer un défaut, vous devez arrêter de le nourrir, car le cours normal de la vie quotidienne. Sinon, ce travail d'élimination sera impossible. Pour accomplir une telle tâche, il faut découvrir chacun de ses aliments afin d'être très alerte et arrêter de s'alimenter. Si nous essayons d'éliminer un défaut en consacrant une heure par jour à les comprendre, mais que nous les nourrissons quotidiennement pendant des heures et des heures, alors l'élimination sera quelque chose de plus qu'impossible. Nous devons découvrir toutes les manières possibles dans lesquelles cet moi, cet ego psychologique, s'alimente. L'analyse transactionnelle ou auto-exploration. Les six premiers points que nous avons placés pourraient faire partie de l'analyse structurelle, puisque nous étudions les mécanismes d'action, les structures du moi étudié, les manières dont il se manifeste, ses composantes, etc. Il existe une autre analyse très importante appelée l'analyse transactionnelle. Transactionnelle. Il y a des transactions dans les banques, dans les magasins, et l'ego ne font pas l'exception. Ils marchent généralement ensemble. Très rarement, ils apparaissent isolés. Il y a des échanges et des combats entre eux, entre les moi, à notre propre intérieur. Nous devons étudier les moi qui se manifestent habituellement avec les moi étudiés. Identifier ces moi psychologiques, ces moi-même, ces jeux psychologiques et la relation qu'ils entretiennent entre eux. Il est également important de découvrir les moi qui émergent à la suite de celui que nous étudions. Une chose importante est de connaître la cause, l'origine, la racine. qui sont toujours d'autres défauts psychologiques. Nous pouvons les faire directement, comme cela a été commenté, en examinant d'abord les moi avec lesquels ils se rapportent. Ce qui émerge plus tard est ce qui servent de racines. On peut aussi les faire en divisant les défauts en parties. Une fois que chaque partie est identifiée, on étudie une à une. Et ainsi, on va découvrir ces transactions entre eux, les moi, les jeux psychologiques dont ils proviennent et les moi qui émergent à cause de ces moi que nous étudions. D'accord? L'auto-révélation. Plus nous voulons faire nos pratiques, à la fois dans la vie quotidienne et dans la méditation, plus il y a de ténacité, de continuité dans le travail, aspirant au changement. Le Père qui est dans les secrets peut nous aider à comprendre les défauts. Le reflet évident de l'être est l'illumination qui vient de notre, du Père qui est en secret, comme un rayon de lumière qui illumine l'obscurité terrifiante de cet univers antérieur. La seule chose à faire à cet stade est de rester silencieux, sans se concentrer sur rien, sans rien demander, sans rien imaginer, juste en silence. Eh bien, les jugements automatiques, voyons-les. Pendant toute la phase de compréhension, l'ego ne doit pas être jugé, car si nous le faisons, nous perdons la capacité de les comprendre de manière objective. Il ne doit être ni justifié, ni poursuivi, ni éludé. Une fois que la compréhension est terminée, maintenant oui, cela nécessite un jugement impitoyable. Nous sommes nous-mêmes et par conséquent, cette étape est appelée jugement de soi, de soi-même. Nous devons vraiment sentir que l'ego est quelque chose qui ne devrait pas exister en nous. Nous devons comprendre les dommages qu'il a causés à nos semblables, à nous et à notre conscience. Tous les dommages qu'il a causés dans le passé, les dommages qu'il nous cause maintenant et les dommages qu'il pourrait causer si elle continuait d'exister en nous. Quel avantage cela nous apporte-t-il s'il cessait d'exister? Le jugement de soi assise les défauts à l'étude sur les quoi, mais ne l'éprouve les dommages causés à la conscience et les bénéfices que l'annihilation du défaut jugé apporterait à nos vies. C'est le travail dans la partie des jugements pendant la méditation. Et nous devons le faire avec la conscience, vraiment, pour arriver à ce moment où nous sentons à notre intérieur la nécessité urgente d'éliminer ces défauts de nous-mêmes. Et même si nous parlons des défauts de la luxure, des défauts de la convoitise, des défauts de la paresse, et nous devons commencer à travailler par les défauts les plus forts que nous avons en nous. Je le répète, car nous pourrons l'étudier mieux, nous pourrons les découvrir et l'observer mieux, et parce que ces défauts sont en train d'endommager notre vie de manière peut-être très sérieuse. Eh bien, mes chers amis, merci beaucoup pour être ici avec nous. C'est parti dont nous venons de parler aujourd'hui. C'est la première partie du livret de Le Temple Bleu, qui est le cadeau de Noël pour vous cette année. Mais, je le répète, c'est un livret que nous délivrons aujourd'hui, mais c'est en espagnol. Et, s'il vous plaît, attendez peut-être deux mois pour avoir la version en français. Merci, chers amis. C'est le message de Noël de l'Institut culturel Quetzalcoatl. Nous le disons à tous comme toujours, que la paix soit avec votre être, que la paix soit à votre intérieur. Ici, sur la Norse, nous disons, sur la Gnose, nous disons paix en barentiel. Avez-vous un jujo Noël et un jujo un prochain? Mais cher ami, c'est la dernière activité de notre Institut culturel Quetzalcoatl. Nous continuerons le lundi 4 janvier dans les prochaines années. Merci à tous pour être ici avec nous. Vraiment merci. Je m'appelle Ruben Soto. Je suis votre instructeur gnostique ici, chez vous, chez l'Institut culturel Quetzalcoatl. Merci et joyeux Noël à tous.